Le journal est présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Hervé, bonsoir à toutes et à tous. Les bons chiffres du chômage en France à la fin de l'année 2018. Le quatrième trimestre en particulier a été bon. Explication et analyse dans un instant avec Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Un nouveau secrétaire d'État dans le gouvernement d'Édouard Philippe, Adrien Taquet, a été nommé ce matin à la protection de l'enfance, dépendant du ministère de la Santé politiquement. C'est visiblement la bonne personne au bon moment et au bon endroit, nous dira Sophie Delpont. Dans ce journal, nous irons également au Venezuela où la situation se tend encore entre les fidèles de Nicolas Maduro, qui se considère toujours comme le président du pays, et les partisans de Juan Guaido, qui s'est autoproclamé cette semaine président par intérim. Et puis l'enquête du service d'investigation de Radio France, signée ce soir Benoît Colomba, qui pose la question de la présence d'armes françaises dans la guerre au Yémen. D'abord, la préparation de l'acte 11 des Gilets jaunes demain, avec, comme chaque vendredi soir en France, depuis maintenant plus de deux mois, l'impossibilité de savoir ce que donneront les chiffres de la participation au mouvement et aux différents cortèges face à ces manifestations, une nouvelle fois annoncées dans toute la France. On ne sait pas non plus pour l'heure avec précision comment les forces de l'ordre seront organisées et déployées, mais un des acteurs récurrents de ces manifestations sera lui, bien là. Bonsoir Marjorie Pléjac.
Bonsoir.
Le lanceur de balles de défense, le LBD, dont deux organisations demandaient la suspension à Paris, sera bien à disposition des forces de l'ordre demain.
Oui, le tribunal administratif de Paris a rejeté cet après-midi la demande de la CGT et de la Ligue des droits de l'homme. Les juges ont décidé de maintenir l'utilisation des LBD, qui sont, on le rappelle, les successeurs des flashballs. Parmi les raisons qui ont motivé la décision des juges, aucune munition n'a été utilisée dans la capitale samedi dernier lors de la mobilisation des Gilets jaunes. Par ailleurs, demain, pour les manifestations, les forces de l'ordre utilisant les LBD seront équipées de caméras. Décision cette semaine du gouvernement pour faire plus de transparence. Les images enregistrées pourront donc être utilisées en cas de contestation sur les circonstances d'utilisation de ces LBD. En tout cas, de son côté, la Ligue des droits de l'homme estime ne pas avoir perdu la bataille. Selon son avocat, Maître Halimi, l'organisation va saisir le Conseil d'État et cette fois, il s'agira de demander l'interdiction des lanceurs de balles de défense, pas uniquement au niveau de Paris, mais au niveau national.
Merci beaucoup Marjorie Pléjac. La création d'une police municipale à Paris, annoncée cet après-midi. L'annonce en a été faite par Anne Hidalgo, qui a donc changé d'avis sur la question depuis son élection à la mairie en 2014. La police municipale parisienne pourra être équipée de matraques et de gaz lacrymogènes, mais pas d'armes à feu. Le chômage a sensiblement diminué en France en 2018, y compris et surtout d'ailleurs sur la fin de l'année. Au quatrième trimestre, 42 000 personnes ont quitté Pôle emploi, soit une baisse de 1,1%. Et pour la première fois depuis la crise de 2008, le nombre de demandeurs d'emploi en activité réduite est en baisse, moins 0,3%, ce qui tendrait à prouver que la qualité de l'emploi s'améliore dans notre pays. Au total, en France, le nombre de personnes inscrites avec ou sans activité est quand même de 5,9 millions. Éric Heyer est le directeur du département analyse et prévision de l'OFCE.
Ces derniers chiffres sont très bons, c'est-à-dire que globalement, il y a une baisse du chômage qui profite à quasiment toutes les catégories, qu'on soit jeune ou moins jeune, qu'on soit homme ou femme. Même certains chômeurs de longue durée, ceux qui ont un an de chômage, voient finalement leur nombre diminuer. Donc c'est plutôt une baisse généralisée et qui est plutôt une bonne nouvelle, et une nouvelle qui même peut paraître surprenante, compte tenu du fait que au cours de ces derniers mois, on a plutôt vu un ralentissement de l'activité, un ralentissement des créations d'emplois. Donc on peut considérer ce chiffre comme plutôt bon, surtout compte tenu des attentes. Peut-être que l'explication est liée au fait qu'on a été assez déçus des chiffres au cours de l'année, c'est-à-dire que globalement, que le chômage baisse en 2018, ce qui est le cas aujourd'hui d'à peu près 60 000, ça c'est pas étonnant compte tenu de l'activité qu'on a eue au cours de cette année. On devrait atteindre aux alentours de 1,5-1,6 de croissance, et donc c'est suffisant pour faire baisser le chômage. Hein, rappelons-le, le chiffre qui stabilise le chômage, c'est 1,2, donc en étant au-dessus, c'est normal qu'il y ait une baisse du chômage, et donc peut-être que c'est du rattrapage. Ce qui est étonnant, c'est le timing, mais sur l'année, on a des chiffres qui peuvent s'expliquer par l'activité.
Des propos recueillis par Catherine Pétillon. La parité au gouvernement n'est plus respectée depuis ce matin et l'arrivée dans l'équipe gouvernementale d'Adrien Taquet. Il y a désormais 19 hommes et 17 femmes. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Adrien Taquet, sur proposition d'Édouard Philippe, comme l'explique la formule consacrée, a été nommé par Emmanuel Macron secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Avant de parler de ce poste et de son périmètre politique, vous nous brossez le portrait de ce jeune passé par le socialisme et qui est depuis aussi un des cofondateurs d'En Marche.
Oui, c'est même lui qui aurait trouvé le nom En Marche en 2015, au moment où Emmanuel Macron préparait sa future envolée. Passé par Sciences Po, puis devenu assistant parlementaire de Dominique Strauss-Kahn, Adrien Taquet part ensuite travailler dans le privé avant la campagne de DSK pour la primaire socialiste de 2006. Il devient ensuite communicant. Il fonde en 2013 l'agence de publicité Jésus et Gabriel, celle qui sera utilisée ensuite pour le clip de campagne d'Emmanuel Macron. À 40 ans, il est élu député LAREM des Hauts-de-Seine et mène ensuite une mission handicap pour le gouvernement, ayant orienté son action en direction des plus vulnérables, selon ses mots, et revendique de mener la lutte contre les angles morts de la République, selon la formule qu'il utilise.
Adrien Taquet rejoint le ministère de la Santé d'Agnès Buzyn en tant que secrétaire d'État à la protection de l'enfance, Sophie. Dans le contexte, c'est la bonne personne, the right guy at the right place, à la bonne place.
Dans le langage de la Startup Nation, effectivement, voilà. Que vous maîtrisez, Benoît Bouscarel, c'est une nomination surprise qui a même pris de court le ministère de la Santé, auquel le secrétariat d'État d'Adrien Taquet doit être rattaché. Pour l'instant, il n'a pas encore de bureau ou d'équipe de presse capable de répondre aux nombreuses questions des journalistes. C'est donc une stratégie qui semble bien sortie du chapeau, à un moment, donc un nouveau pare-feu face à la colère des Gilets jaunes, un moyen que l'exécutif espère efficace pour réorienter l'action du gouvernement en ce moment et son image vers plus de social, plus d'humain. C'est un secrétaire d'État qui a présenté en mai dernier un rapport contenant 113 mesures pour les enfants et les adultes handicapés. Un rapport qui s'insurge notamment contre certaines formes de violences administratives. Et cette proposition contre les violences administratives a été d'ailleurs prise en charge par le gouvernement. Adrien Taquet devra mettre en œuvre maintenant la stratégie nationale pour la protection de l'enfance et de l'adolescence. Stratégie qui doit être présentée lundi après des mois de report. Mais selon les mots de source du ministère de la Santé, rien n'est encore prêt du point de vue logistique au moment où nous parlons, Benoît, pour cette présentation. Les journalistes sont donc encouragés à rappeler le ministère lundi.
Merci Sophie Delpont. Au Venezuela, la crise ouverte en mai dernier par l'élection très contestée de Nicolas Maduro arrive, non pas bien sûr à son dénouement, mais certainement à un climax depuis l'annonce hier de Juan Guaido, le jeune président de l'Assemblée nationale qui se considère désormais comme président intérimaire du pays. Les choses avancent. Différentes chancelleries à travers le monde ont déjà choisi de prendre part pour l'un ou l'autre des deux hommes forts du pays et l'Europe, on va y revenir, semble pencher progressivement, mais tout entière pour Juan Guaido. Cependant que sur le terrain, celui-là continue à tenir ses meetings et à faire le forcing, Benjamin Delisle.
Énormément de Vénézuéliens sont rassemblés sur la place Chacao, au centre de Caracas, non loin de là où Juan Guaido s'était autoproclamé président par intérim le 23 janvier dernier. Ils attendent le président pour que celui-ci leur donne une feuille de route pour les prochains jours et que cesse la situation d'attente qui caractérise les dernières heures, la dernière journée. Certains espèrent que le président va convoquer de nouvelles marches pour pouvoir montrer une nouvelle fois la force populaire qui souhaite le départ de Nicolas Maduro. Beaucoup m'ont confié qu'ils espéraient que dans les prochains jours, l'armée changerait d'avis et rejoindrait l'opposition, car selon eux, sans le soutien de l'armée, il est impossible d'organiser des élections libres. C'est en tout cas le souhait de beaucoup de personnes. Ils veulent aussi connaître le nom des représentants du gouvernement de Juan Guaido, qui apparemment a été constitué hier à Caracas.
Benjamin Delisle à Caracas pour France Culture. Le dénouement de cette crise majeure dans un pays en plein marasme économique et politique passera-t-il par un règlement diplomatique? Rien n'est moins sûr. Et pourtant, les chancelleries s'activent à travers le monde. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, dit soutenir pleinement au nom de l'Union européenne l'Assemblée nationale vénézuélienne et elle appelle à l'ouverture immédiate d'un processus politique débouchant sur des élections libres et crédibles. Dans le même temps, plusieurs États membres, dont l'Espagne, l'Allemagne et la France font un pas vers la reconnaissance de Juan Guaido comme président par intérim. Franck Madvon.
Les Européens sont tous d'accord, il faut en finir avec Nicolas Maduro. D'ailleurs, les ambassadeurs des pays de l'UE ont assisté à la prestation de serment de Juan Guaido pour la présidence du Parlement le 5 janvier, mais aucun n'était présent pour l'investiture de Maduro 5 jours plus tard. Il y a en revanche des divergences sur la méthode. Comment aider au mieux Guaido, résume un diplomate. Certains pays, le Royaume-Uni, l'Espagne, seraient prêts à le reconnaître immédiatement président. D'autres, comme la France, se montrent plus prudents. Il ne faut pas griller cette carte tout de suite, dit-on à Paris. Laissons d'abord à Maduro la possibilité d'appeler lui-même à des élections. Il faut lui fixer un ultimatum et on parle ici de jours. L'UE prépare une déclaration en ce sens. Si Maduro ne cède pas, alors les 28 reconnaîtront le jeune Juan Guaido président. Pour le moment, Maduro peut encore être l'homme de la transition. En clair, dit un diplomate, il peut devenir Bachar al-Assad ou Gorbatchev.
Franck Madvon. Au Brésil, Jean Vilis, député fédéral du Parti Socialisme et Liberté, qui venait d'être réélu pour un troisième mandat, a finalement pris la décision de s'exiler et de renoncer à ses fonctions. Ouvertement gay et sous le coup de menaces très précises et caractérisées, Jean Vilis vivait depuis près d'un an sous protection policière. Une protection jugée insuffisante par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, mais que le nouveau pouvoir brésilien n'a pas jugé bon de renforcer. Anne Vigna.
Il était la bête noire des partisans du président brésilien et des députés religieux pour avoir notamment défendu l'union civile entre personnes de même sexe. Jean Vilis, 44 ans, devait prendre ses fonctions le 1er février prochain pour son troisième mandat de député fédéral. Mais menacé de mort, il renonce à son siège et à son pays. Vilis vivait sous protection policière depuis l'assassinat de la conseillère municipale Marielle Franco en mars dernier. Marielle appartenait au même parti politique et assumait aussi ouvertement son homosexualité. Les menaces de mort contre le député de Rio ont été beaucoup plus nombreuses pendant la campagne électorale. Jair Bolsonaro l'a rendu responsable d'une supposée éducation homosexuelle dans les écoles. Vilis a ensuite été maintes fois traité de pédophile sur les réseaux sociaux et sur un groupe Facebook, une juge de Rio a même proposé de le fusiller. Depuis l'élection de Jair Bolsonaro, le député ne se sentait plus protégé, comme l'avait aussi constaté la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Il part à l'étranger tout en laissant son siège à un autre député ouvertement gay.
Roger Stone, ami de longue date et conseiller informel de Donald Trump, a été brièvement arrêté aujourd'hui. Il a été inculpé dans l'enquête sur une possible collusion entre l'équipe de campagne présidentielle de Trump en 2016 et la Russie. C'est ce qu'a indiqué tout à l'heure le bureau du procureur spécial Robert Mueller. Roger Stone a été inculpé de 7 chefs d'accusation avant donc d'être remis en liberté. En Turquie, la libération conditionnelle aujourd'hui de Leyla Güven, cette députée kurde du Parti démocratique des peuples, était en grève de la faim depuis 79 jours. Elle était également détenue depuis un an maintenant. Elle protestait contre les conditions de détention d'Abdullah Öcalan, chef historique du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Cette libération n'est cependant que conditionnelle et Leyla Güven, très affaiblie, est toujours accusée de terrorisme. Elle aura l'interdiction de quitter le territoire turc à Istanbul. Alexandre Billette.
Elle est toujours en cours de procès, encore interdite de sortie du territoire, mais Leyla Güven est libre aujourd'hui dans son appartement après avoir passé un an derrière les barreaux. La députée de la gauche pro-kurde du parti HDP est accusée de terrorisme pour avoir notamment dénoncé sur les réseaux sociaux l'opération militaire turque contre les milices kurdes en Syrie. Mais c'est surtout pour sa grève de la faim que son cas a été médiatisé ces dernières semaines. Une grève entamée le 8 novembre dernier pour dénoncer les conditions d'emprisonnement d'Abdullah Öcalan, le chef historique du PKK détenu depuis 20 ans à l'isolement sur une île au large d'Istanbul. Aujourd'hui, Leyla Güven a perdu près de 15 kilos. Son état de santé est préoccupant, mais sa grève de la faim a inspiré des dizaines d'autres détenus qui ont eux aussi cessé de se nourrir, selon le HDP. Sans l'évoquer clairement, le tribunal a peut-être aujourd'hui décidé de la remettre en liberté pour éviter son décès en prison, qui aurait pu mettre le feu aux poudres. Mais selon ses soutiens, Leyla Güven a bien l'intention de poursuivre sa grève de la faim à son domicile.
Correspondance depuis Istanbul d'Alexandre Billette. Un jour historique et une nouvelle page pour les Balkans. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras savoure sa victoire au Parlement cet après-midi, alors qu'a été définitivement ratifié l'accord sur le nouveau nom de la Macédoine. Malgré de très vives oppositions qui s'expriment toujours en Grèce, ce vote crucial ouvre la voie à l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN de la désormais nommée République de Macédoine du Nord. À Athènes, la correspondance d'Angélique Kourounis.
La majorité des députés soulagés applaudissent ce tombé de rideau dans les Balkans. Au terme de plus de 38 heures de débats houleux, l'accord de Prespes a été ratifié par le Parlement grec cet après-midi par 153 voix sur les 300 que compte le Parlement grec, soit 8 de plus que celle du Syriza, le parti de la gauche au pouvoir. Jusqu'au bout, les débats ont été violents, voire haineux, les députés du parti néo-nazi grec ayant tenté un ultime coup d'éclat en votant, je cite, non pour cet accord de traître. Le président du Parlement, Nikos Voutsis, les a repris plusieurs fois pour les obliger à voter en conformité avec la légalité.
Δεν υπάρχει ψήφος, όχι στην προδοσία, δεν υπάρχει.
Il n'y a pas de vote, non à la trahison, vous pouvez oui, non. On peut dire éventuellement jamais, ou bien sûr, mais en aucun cas non à la trahison. Un vote qui contient un message politique n'est pas admis.
L'incident qui a duré un moment n'a pas empêché le vote final, pas plus que les veillées religieuses ou les très violentes manifestations qui avaient lieu dans tout le pays cette semaine. Maintenant, la route vers l'OTAN et l'Union européenne est ouverte pour la Macédoine du Nord. La Grèce, elle, selon Athènes, tout en protégeant sa province macédonienne frontalière, pose ses jalons de puissance régionale et s'assure par là même un allié qui lui sera indéfectible. L'opposition conservatrice, violemment opposée à cet accord, a d'ores et déjà prévu que si elle arrivait au pouvoir, elle bloquerait les négociations européennes pour pouvoir renégocier avec Skopje la question du non. Selon un récent sondage, 62% des Grecs sont opposés à cet accord, soit 8% de moins qu'il y a 6 mois.
Le pape François, en déplacement au Panama dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse, visitait aujourd'hui une prison pour mineurs à une quarantaine de kilomètres de la capitale du pays. Il y a dénoncé, je cite, « les murs invisibles qui marginalisent, séparent et isolent les gens ». Reportage de notre envoyé spécial à Pacora, Mathilde Imberti.
Une liturgie pénitentielle toute simple dans cette prison pour mineurs de la périphérie de Panama City. Plus de 150 jeunes y purgent leur peine. Le pape en a confessé 5. C'est Ariel Lopez, assistant social, qui les a préparés à la rencontre.
En fait, le pape, en venant ici, fait ce qu'il dit. Il va à la périphérie humaine. Je ne peux pas vous dévoiler quels crimes ont commis ces jeunes, mais ce sont des jeunes au casier très lourd. Ils ont besoin de tout l'amour du pape pour aller de l'avant, pour continuer à vivre et aimer la vie.
De seguir viviendo y de amar la vida.
Peu d'images de ce moment, seule la télévision panaméenne le retransmet sans montrer jamais le visage des jeunes détenus. Gros plan sur le pape au moment où il se livre à une homélie en grande partie improvisée.
11 des 12 disciples étaient de graves pécheurs. Ils ont trahi et Jésus est allé les chercher un par un. Chers amis, chacun de nous est beaucoup plus que l'étiquette qu'on nous colle. La médisance semble gagner parfois, ne l'écoutez pas. Cherchez et écoutez les voix qui encouragent à regarder vers l'avenir et non pas celles qui vous tirent vers le bas.
Un pape François à l'aise avec les détenus, il répète souvent qu'il aurait pu, lui, se retrouver en prison, pêcheur parmi les pêcheurs. Une parenthèse intimiste avant de retrouver les foules des JMJ.
Des armes françaises sont-elles utilisées contre des civils dans la terrible guerre qui frappe actuellement le Yémen? Guerre dont l'ONU estime qu'elle provoque la pire crise humanitaire mondiale. C'est la question posée ce soir à 18h17 dans le cadre de l'enquête du journal de 18h. Question qui taraude. Bonsoir Benoît Colombat.
Bonsoir.
Du service d'investigation de Radio France. Vous avez essayé de savoir si des armes françaises sont donc utilisées et quelles conséquences ça pourrait avoir.
Oui, parce que le bilan de cette guerre est terrible. Plus de 10 000 morts civils, 20 millions de Yéménites qui ont besoin d'aide humanitaire. Une guerre qui oppose des rebelles chiites houthis à une coalition internationale menée par l'Arabie Saoudite, le deuxième client français en 2017 en matière de vente d'armes. Or, pour Tony Fortin de l'Observatoire des armements, il existe de multiples indices de présence d'armes françaises au Yémen dans tous les domaines.
Ça peut être des frégates découvertes au large du Yémen, ça peut être des drones de surveillance, des chars Leclerc impliqués dans des offensives, ça peut être des blindés légers Panhard vendus dans les années 90, ça peut être également d'autres blindés légers plus récents vendus après 2015, à savoir des blindés légers Akhmad Bastion destinés aux forces spéciales. On a aussi des avions ravitailleurs qui sont essentiels effectivement à la logistique des bombardements saoudiens, et sans ces avions ravitailleurs, ce serait difficile de mener une campagne de bombardement.
Et on peut ajouter à cette liste des canons français officiellement placés le long de la frontière saoudienne, des systèmes de guidage laser, de l'aide satellitaire ou de la surveillance numérique. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que des armes qui sont vendues à l'Arabie saoudite. Il y a aussi de la maintenance et tout un accompagnement technique. Et c'est là que potentiellement il peut y avoir un risque juridique pour les entreprises françaises qui vendent des armes et de la maintenance aux Saoudiens, mais aussi aux Émirats arabes unis, également très impliqués dans cette guerre, comme l'explique Hélène Leger, l'une des meilleures spécialistes de ce dossier.
Ce qu'on reproche, c'est tout ce qui est fait depuis le début du conflit en termes de maintenance, en termes de fourniture de pièces de rechange, en termes de formation, formation des pilotes de chasse, etc. Toute l'activité menée par les entreprises françaises aux côtés des Saoudiens et aux côtés des Émiratis pour faire en sorte que le matériel de guerre utilisé au Yémen fonctionne, le matériel de guerre de fabrication française, ça peut être problématique. Cette assistance portée par les entreprises françaises aux militaires saoudiens et émiratis peut être constitutive de crimes de guerre si effectivement ça concerne du matériel qui est utilisé à l'encontre des civils yéménites.
Oui, de la maintenance française qui pourrait donc poser problème, Benoît, mais il y a autre chose.
Oui, il faut regarder ce qui se passe également sur mer. Toute une partie de l'aide humanitaire est régulièrement bloquée par des navires de la coalition, ce qui pourrait constituer là encore un crime de guerre. Or, des bateaux français sont vendus à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Si le lien est fait avec ce blocus maritime, il pourrait y avoir des conséquences juridiques, estime le président du groupe d'experts des Nations Unies qui a enquêté sur place, Kamel Jendoubi.
Le Yémen importait pratiquement tout de l'extérieur. L'impact considérable de ces restrictions sur la population civile est énorme. Les femmes et les enfants sont les principales victimes du conflit au Yémen. En application du droit humanitaire international, oui, il peut y avoir qualification de crime de guerre. Il faut que l'intention soit aussi prouvée par le tribunal ou par l'instance judiciaire qui doit statuer sur ces affaires-là.
Et le risque existe.
Le risque existe, c'est clair, net.
Alors du côté des autorités françaises, on estime que le risque est, je cite, « sous contrôle » et que les armes françaises ne seraient utilisées que de manière défensive, en riposte donc aux attaques rebelles. Des arguments insuffisants pour une association qui a saisi le tribunal administratif pour tenter de faire suspendre les exportations d'armes françaises dans la région. L'Assemblée nationale a créé une mission d'information sur le sujet qui va travailler pendant plusieurs mois, mais avec forcément moins de pouvoir qu'une commission d'enquête parlementaire.
Merci. Merci Benoît Colomba du service investigation de Radio France. Votre enquête est à retrouver en intégralité sur franceculture.fr. 5 départements du nord-est, les Vosges, la Haute-Saône, le territoire de Belfort, le Jura et le Doubs sont placés pour la nuit en vigilance orange pour risque de neige et de verglas. En journée, les températures maximales afficheront demain de 4 à 8 degrés à l'est, de 8 à 12 degrés sur la moitié ouest, jusqu'à 16 degrés au sud. Voilà pour les prévisions météo de ce samedi. Journal préparé avec Brice Garcia. Le prochain à 22h vous sera présenté par Maxime Fayol. Il est maintenant 18h22. Pardon pour le retard. Voici du grain à moudre avec Hervé Gardette.
Merci Benoît Bouscarel.